Retrouvez Brume, la radio campus de Lyon, lors de la nuit des chercheurs ce vendredi 26 septembre. Au Planétarium de Vaux-en-Velin. Studio radio in situ pour couvrir la nuit des chercheurs, l'événement qui inaugure cette année l'édition 2014 de la Fête de la Science. Soirée spéciale à la rencontre des acteurs de la science, des chercheurs, votre radio campus s'offre un moment ludique de découverte parmi le public et plonge dans le monde passionnant de la recherche d'aujourd'hui.
Archimedeskracht.
Newton Aschapjas.
We vliegen. Afgeven.
La nuit des chercheurs, c'est une autre expérience. Vivez-la, le 26 septembre.
Brume a couvert pour vous la nuit des chercheurs, qui se déroulait le vendredi 26 septembre au Planétarium de Vaux-en-Velin.
Vous êtes bien sûr Brume pour la nuit des chercheurs au Planétarium de Vaux-en-Velin. J'ai avec moi deux chercheurs, puisque c'est un peu le thème de la soirée, Dorothée et Jérémy. Alors, Jérémy, présente-toi.
Me présenter. Alors, moi je suis très jeune, je dois peut-être être plus jeune au niveau de la recherche, vu que là je viens juste de passer mon M1. Donc en premier temps, je m'intéressais aux ingénieurs et à leur professionnalisation. Et là, en fait, je me dirige plus vers le domaine de la robotique. Donc sur plus des questions d'accessibilité pour les personnes âgées. Donc avec des robots comme il y a pu en avoir à InnoRobot, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont enseignés. C'était le robot Roméo qui venait de présenter l'aide aux personnes âgées, mais aussi la question de la pratique avec le personnel soignant de ce robot. Voilà, donc du coup, moi, vu que là, je suis un peu tout nouveau, c'est vrai que c'est plus un foisonnement d'idées, de réflexions, d'hypothèses que j'aimerais mettre en avant. Bah, là, on fait une petite expérience ce soir où on va faire interagir le public pour leur montrer aussi un peu comment, qu'est-ce que c'est le boulot de chercheur. Qu'est-ce que c'est se questionner sur une thématique, mettre en place une expérience, etc. Donc là, ce soir, donc on a pris 6 robots qui seraient certainement... Ben voilà, c'est des robots, on a fait le parti pris de prendre des robots qui seront certainement là dans quelques années. Donc voilà, donc on a Roméo, le robot d'aide aux personnes âgées. Il y a Paro qui est déjà utilisé dans des centres médicalisés, soit des EHPAD, donc centres médicalisés pour personnes âgées, soit pour des personnes en hôpital psychiatrique, donc qui ont des troubles du comportement, etc. C'est un petit robot qui ressemble à une petite Otari. Ensuite, on a le PR2 qui serait plus un robot ménage, cuisine, etc. Le BIM, un robot de téléprésence, donc ma collègue Dorothée qui elle travaille sur leur implantation dans les milieux scolaires, donc soit pour des personnes lycée, collège, soit de personnes malades, soit de personnes qui sont à distance, qui voudraient assister, participer aux conférences. Le Ripley, c'était parce que il a cette Ripley, c'est un robot qui est très humanoïde, qui est très ressemblant à l'humain. Et c'est se poser aussi cette question-là de l'apparence, donc des robots plus ou moins humains, et ce que ça nous fait ressentir quand on les voit au premier coup d'œil. Est-ce qu'on est plutôt attiré, est-ce qu'on est plutôt répulsé, voilà.
Oui, le sentiment d'étrangeté en fait face à un robot qui nous ressemble, c'est assez particulier effectivement.
Avec des chercheurs comme Masahiro Mori qui a travaillé sur la vallée des étranges, oui, tout à fait.
Dorothée peut-être, tu me présentes toi un petit coup aussi.
Je vais me présenter rapidement. Donc moi je travaille pour un Learning Lab qui est une alliance de l'École Centrale et l'EM Lyon, et on travaille sur les usages de la robotique dans tout ce qui est domaine pédagogique en fait. Donc on intègre des robots dans des écoles, à la fois pour permettre à des élèves qui sont éloignés du milieu scolaire de venir en cours, dans des écoles, dans des universités et dans des lycées. Et on utilise aussi ces robots-là pour des enseignants qui ne pourraient pas se déplacer, qui seraient à l'étranger. Et ça permet aussi des interactions aussi avec des personnes qui sont en France, avec des personnes qui sont à l'étranger. Voilà, donc nous on travaille à la fois sur les usages, d'un point de vue sciences humaines, mais aussi sur l'acceptabilité des robots par les humains. Voilà.
Oui, parce que c'est vrai que c'est une question quand même qui pose question justement. Comment ça va se développer en fait dans le futur? Est-ce que vraiment les robots seront présents dans notre quotidien?
Ah oui, moi j'en suis certaine, oui. Oui, alors il y a différents types de robots, comme on expliquait, il y a des robots plus humanoïdes. Moi je travaille plus sur des robots de téléprésence, qui permettent justement de permettre aux gens justement de pouvoir être présents dans des lieux où ils seraient empêchés. Donc oui, moi je pense qu'il y a un usage, que ce soit à la fois pour des personnes âgées, pour leur permettre de garder un lien ou de maintien au domicile, ou pour éviter aussi des déplacements, mais je pense que ça offre beaucoup d'autres possibilités qu'on est en train de découvrir.
Et d'un point de vue éthique, est-ce que ça pose pas question, par exemple, que pour les personnes âgées, ce soit des robots qui remplacent des personnes réelles qui pourraient s'occuper des personnes âgées ?
Alors, du coup, dans les téléprésences, c'est pas le robot qui vient remplacer un humain, c'est un humain qui est derrière le robot, qui le pilote, et qui, justement, peut intervenir très rapidement auprès de la personne âgée. Donc, c'est surtout ça. Donc, non, on remplace pas l'humain, absolument pas. Au contraire, sans humain, il n'y a pas de robot. C'est pas possible, on peut pas les faire fonctionner, on peut... Voilà, surtout dans la téléprésence, on a besoin de quelqu'un qui le pilote. Donc non, au contraire, ça, pour nous, c'est un moyen aussi d'améliorer les interactions et d'être un peu plus présent.
Donc en fait, le robot sert d'intermédiaire dans une relation qui reste humaine.
Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est plus un intermédiaire, oui.
En tout cas, dans votre champ de recherche à vous, puisque effectivement, pour ce qui est de l'assistance aux personnes âgées, par exemple, il n'y a pas forcément un humain derrière qui est prévu au final.
Alors ça dépend, dans des humanoïdes type Roméo, on aura un service humain quand même pour adapter justement le robot à la personne, mais oui, c'est pas vraiment pour remplacer l'être humain, mais c'est plus pour suppléer et pour aider.
Brume défriche pour vous l'actualité culturelle. Tout de suite, les magazines.
Brume 90.7, le studio mobile, fête de la science, nuit des chercheurs. On retrouve Mathilde Dumont qui est donc en thèse et qui va ce soir parler un petit peu de l'évolution des plantes, c'est ça ?
Voilà, en fait, je vais principalement parler d'un exemple d'orchidée qui en fait se déguise en abeille pour attirer les abeilles, ce qui lui apporte des avantages sérieux vu que ça lui permet de se reproduire. Et puis je vais aussi parler des problèmes que ça cause pour l'orchidée en question, parce que évidemment s'il n'y a plus d'abeilles, l'orchidée va disparaître. Donc d'un côté c'est très bien, c'est très spécialisant, ça lui apporte beaucoup de qualité à cette orchidée, mais ça peut poser rapidement beaucoup de problèmes s'il n'y a plus d'abeilles par exemple.
Et alors, toi, tu as choisi ce sujet, c'était justement parce que c'était quelque chose qui te touchait un petit peu, la question de la sauvegarde des abeilles ou de la protection de l'environnement, ou c'était plutôt l'aspect scientifique de la transformation qui t'intéressait? Comment ça s'est fait un peu?
Moi, je voulais parler de ça principalement parce que je trouve ça extraordinaire, une plante qui se déguise en abeille. Et je trouve que c'est pas du tout intuitif comment ça peut arriver. Et c'est pour ça que je voulais en parler, parce que je trouve ça très intéressant.
Et c'est quoi son intérêt à la plante, alors, de se transformer en abeille, vraiment ?
En fait, les abeilles, si elles voient une abeille, forcément, elles vont aller la voir, parce que c'est une abeille. Et du coup, le fait que la plante se déguise en abeille, ça va faire que toutes les abeilles vont la voir, elles, plutôt qu'une plante qui est moins intéressante.
Elle va se faire butiner beaucoup plus facilement,
c'est ça.
Mais elle n'a pas peur de se faire attaquer, parce qu'on sait que les abeilles, quand même, quand elles ne viennent pas de la même ruche, des fois, ça ne se passe pas très bien entre elles.
Disons qu'une seule abeille vient à la fois, donc il n'y a pas de bagarre d'abeilles sur les fleurs.
Et alors, du coup, toi, ton parcours, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu as fait comme étude avant ça ?
Alors moi, j'ai commencé par faire une prépa bio, et après le bac. Et puis ensuite, je suis rentrée à l'ENS à Lyon. Donc c'est l'école normale supérieure, et j'ai fait de la bio là-bas. C'est une formation plutôt généraliste, donc ça permet de faire ses choix un peu quand on veut, et au bout d'un moment je me suis spécialisée dans les plantes.
D'accord, et c'est important pour toi, en tant que voilà, scientifique, qui fait de la recherche, d'avoir un espace comme aujourd'hui au planétarium où on va dialoguer avec les gens autour de la science, de la recherche. Et justement, comme tu l'expliquais, toi, de ton sujet précis, de l'orchidée, de l'abeille et tout ça ?
Évidemment, c'est très important, parce que les gens ne sont pas forcément conscients que les plantes, c'est aussi de la recherche très intense. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui travaille sur les plantes, et ça a des implications dans la vraie vie, sur l'agriculture, ou même beaucoup plus théoriquement sur comment une plante se développe et grandit. Et du coup, rendre les gens conscients de tout ce qui se passe dans les plantes, alors que c'est des plantes, c'est pas intelligent, ça bouge pas, c'est pas mignon ni rien. Je trouvais ça quand même vraiment important de sensibiliser les gens au fait que les plantes, c'est quand même super intéressant.
Et alors, les projets futurs pour toi, un petit peu, donc la thèse, et après plutôt de la recherche ou
Bah, j'aimerais bien continuer dans la recherche, bien sûr, mais c'est sûr que les horizons sont plutôt bouchés en recherche, surtout en France, donc potentiellement à l'étranger.
D'accord. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas.
Bah, je t'en prie.
Brume défriche pour vous l'actualité culturelle. Tout de suite, les magazines.
Vous êtes bien sûr Brume pour la nuit des chercheurs au planétarium de Vaux-en-Velin. J'ai avec moi Thomas Pachou, qui est un peu plus qu'un chercheur en fait, puisqu'il met sa recherche, disons, au profit de l'art. Thomas Pachou, présente-toi un petit peu.
Bonjour Margot. Du coup, je m'appelle Thomas Pachou. Je travaille sur tout ce qui est nouvelles technologies dans le spectacle, principalement depuis maintenant 5 ans, avec différentes compagnies comme Los Renden Theater, sur lequel je travaille comme projet Proximity, où on travaillait en vidéo temps réel avec 3 caméras au plateau. J'ai travaillé récemment avec Ezra pour le Bionic Orchestra, pour qui j'ai développé un gant interactif qui lui permet de se looper, de se spatialiser sa voix dans l'espace, de gérer des effets, le volume, des choses comme ça. J'ai travaillé aussi actuellement pour Blancali, pour le spectacle robot, pour que j'ai travaillé sur ces petits robots et les plus grands robots et toutes ces machines-là. Voilà, sur pas mal de spectacles jusqu'à présent, principalement spectacles, quelques installations aussi. Mais du coup, depuis le temps que je travaille dans cet univers, j'ai de plus en plus envie de travailler sur mes propres objets. Du coup, en novembre dernier, j'ai pris la décision de me lancer autour d'une recherche autour de la lumière.
D'accord. En fait, ta formation de départ, c'est quoi ?
Alors, ma formation à la base, j'ai fait une formation d'ingénieur multimédia à l'IMAC à Paris, qui est une école d'image multimédia, audiovisuel, communication. Donc autour de l'image, du multimédia, de l'audiovisuel et de la communication.
D'accord. Donc en fait, tu passes le plus clair de ton temps sur un ordinateur ?
Je passe pas mal de temps sur mon ordinateur, mais pas que. Je fais aussi pour ce projet, on a travaillé sur le prototypage, découpé du bois, j'ai fait des trucs en plastique, j'ai travaillé de la matière miroir, souple, pas souple, et pour d'autres projets, voilà, je travaille, disons, un tiers ou la moitié de mes créations se fait sur ordinateur, et les deux tiers ou la moitié, ça doit être quelque chose entre les deux, se fait dans du bricolage, de l'assemblage, du travail autre.
Multiples compétences donc. Et donc ce soir tu nous présentes quoi comme objet ?
Alors ce soir je vous présente le Lumarium. Le Lumarium est le premier objet né de ces recherches autour de la lumière, donc du projet Hyperlight comme je l'appelle, qui est donc un projet que je mène depuis le printemps. De recherche autour de l'espace et de comment construire l'espace avec la lumière. Typiquement, quand on a un espace en fumée, on envoie un faisceau avec un vidéoprojecteur ou un laser ou n'importe quelle source lumineuse. Le faisceau s'imprime dans l'ensemble de l'espace et on dessine un mur. On dessine un cercle, ça nous fait un cône. On dessine un carré, ça nous fait une pyramide. Un triangle, ça nous fait une pyramide aussi d'ailleurs. Donc ça c'est des choses que j'explore depuis pas mal de temps avec Ezra notamment sur les scénos du Bionic Orchestra ou le Ezra 2.0 et avec Félicie Detendorf, une artiste plasticienne parisienne. Mais il y a différentes choses qui me limitaient dans l'écriture et où je me sentais un petit peu bloqué. C'est que voilà, je ne gérais mes faisceaux que par de l'écriture de vidéo. Là où je pense qu'il y a d'autres procédés, enfin j'ai découvert d'autres procédés qui permettent de travailler cette matière pour donner un autre grain, un autre aperçu, une autre dynamique. On travaille toujours dans un espace divergent, comme je disais il y a 2 minutes, c'est-à-dire qu'on a une source, des faisceaux qui en partent, mais tous les faisceaux partent de la source et divergent vers l'infini. J'avais envie de pouvoir paralléliser les faisceaux, voire les faire converger, pouvoir jouer la lumière de façon un petit peu, voilà, créer des espaces un peu différents. Il y avait un troisième point qui m'échappe là tout de suite, mais voilà, il y a différentes choses dans lesquelles j'étais un petit peu limité et autour desquelles j'avais envie de fouiller, avec toujours cette idée, voilà, de comment construire de l'espace et créer un espace un peu immatériel mais le plus vivant possible, le plus organique possible, ou pas du tout d'ailleurs, qui peut être complètement électronique, comment en tout cas créer de l'espace, le modifier, le transformer et emmener le spectateur dans un espace dans un monde que je crée et que je leur propose. Du coup, voilà, ces recherches ont commencé. On a pas mal prototypé cet été autour de ces problématiques. Et au milieu de l'été, du coup, j'ai conçu ce premier objet que je vous présente pour la première fois ce soir.
Est-ce que tu peux le décrire un petit peu ? Parce que comment on peut dire que c'est un grand aquarium ?
Alors, ça ressemble effectivement à un grand aquarium. Donc, on a devant nous une belle boîte de plaques d'acier noir revêtues sur le haut, les côtés, et de trois grandes vitres de plexi. Celle de face fait 1m50 par 1m50 et celle de côté font 2m30 par 1m50, si je dis pas de bêtises, c'est quelque chose de ce genre-là. Du coup, ce qui nous crée une sorte d'aquarium, vraiment, où on voit actuellement Pierre, mon assistant sur la créa, qui est en train de nettoyer cet aquarium, histoire de tout rendre beau et propre pour ce soir, et que le public puisse en profiter au maximum. Et du coup, dans cet aquarium, j'y diffuse de la fumée. Donc cet aquarium se remplit de matière, en tout cas. Puis dans cette fumée, j'y diffuse de la lumière via un laser qui, du coup, nous permet de créer ces architectures, créer ces perspectives, créer un univers, un monde dans lequel le spectateur du coup peut regarder d'un œil extérieur. Voilà, avec du coup aussi autour du son deux enceintes de part et d'autre de la boîte, qui permettent de diffuser une création sonore de David Guerra, qui joue qui est en interaction très profonde avec l'espace.
C'est la première représentation en fait ce soir.
C'est la première présentation ce soir, c'est la toute première. On sort de deux semaines de résidence vidéophonique d'ADN. Donc ce soir, on a la toute première représentation de cette proposition.
Et on pourra la revoir, si je ne me trompe pas, à Experimenta à Grenoble.
Et on pourra la revoir les 9, 10 et 11 octobre à Experimenta à Grenoble, dans Minatech. Du coup dans des conditions un petit peu différentes, mais on pourra toujours voir ça, et j'espère qu'on pourra la revoir plein d'autres fois, je sais pas où, mais j'espère que ça tournera et qu'on aura l'occasion de la revoir peut-être ici à Lyon ou ailleurs.
Je te souhaite une bonne première, Thomas, et puis merci en tout cas d'avoir parlé à Brume pour la Nuit des chercheurs.
Brume défriche pour vous l'actualité culturelle. Tout de suite, les magazines.
Brume 90.7, nous sommes toujours à la Nuit des chercheurs et nous avons le plaisir de retrouver Catherine Neal, qui est donc chercheur autour des sols, spécialiste des sols. Alors, bonsoir.
Bonsoir.
Tu peux nous présenter un petit peu ce que tu proposes ici, quel projet un petit peu t'as mis sur pied pour la Nuit des chercheurs ?
Eh bien, c'est un projet sur l'analyse des jardins urbains et des jardins familiaux et des jardins partagés, et on regarde la pollution des sols. Alors on regarde la pollution des sols et des légumes. En fait, heureusement, la plupart des sols ne sont pas pollués, ce qu'on a analysé. Et ce qu'on regarde aussi, c'est le ressenti de pollution des jardiniers, la différence entre la vision de la pollution par les scientifiques et le ressenti de la pollution par les jardiniers. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc ça, c'est avec une sociologue qui a participé au travail.
Et alors, comment vous avez procédé ? Vous êtes allé vraiment dans les jardins des particuliers ou dans des assos de jardinage ?
Alors, on a été aidé par le Pass Jardin, qui nous a permis de prendre des contacts avec des jardins familiaux. Et on a été choisir des sites en fonction de leur localisation, en fonction d'essayer d'avoir un gradient entre du urbain, du périurbain et du plus rural. Et on a analysé comme ça 7 jardins, ça ne fait pas beaucoup. Et dans chaque jardin, on a prélevé des sols, on a proposé des graines de radis, de salade aux jardiniers qu'ils ont accepté de semer. On a récolté les radis, on a analysé les radis et les salades qui ont été récoltées. Et puis en parallèle, on a fait des enquêtes auprès des jardiniers pour savoir ce qu'ils faisaient, pourquoi ils étaient motivés à faire du jardin, ce qui était important pour eux, et puis comment ils percevaient leur environnement, la biodiversité, la pollution. Ce qu'on cherchait à savoir.
Qu'est-ce qui est ressorti un petit peu de tout ça ? Est-ce que c'est vraiment pollué, les jardins en ville ?
Heureusement non. Ce qui est sorti, c'est qu'il y a des sources de pollution que les jardiniers ne soupçonnent pas. et que les scientifiques recherchent parce qu'ils sont un petit peu plus alertés. Par exemple, ça peut être des sources finalement naturelles, c'est-à-dire le sol peut être naturellement riche en certains éléments. C'est lié à la roche qui est sous le sol. Ça, c'est vrai que les jardiniers, ils soupçonnent toujours que la pollution vient de l'extérieur, vient des industries, vient des voitures, ou même vient éventuellement d'apports qu'ils pourraient avoir. Donc, c'est vrai qu'ils ne pensent pas à des sources de pollution qui peuvent être dans le sol. Et inversement...
Et vous avez travaillé un petit peu sur la biodiversité. Moi, je sais pas, personnellement, j'ai un jardin en ville. Et c'est clair que c'est hallucinant depuis un ou deux ans que ce jardin grandit. Il y a plein d'oiseaux qui viennent, des abeilles, alors qu'on est en plein cœur de ville. Tout un tas de papillons. Enfin, il y a vraiment une micro-biodiversité qui s'est... Et ça, c'est quand même aussi quelque chose de beau, quand même, dans ce truc des jardins un petit peu en ville.
Alors on a regardé, on a surtout interrogé les jardiniers sur leur perception de tout ça, justement, ce ressenti, pourquoi c'est important pour eux, ce jardin dans la ville en particulier. Alors on n'est pas allé jusqu'à aller interroger des personnes autour du jardin, parce qu'on n'avait pas assez de temps, pas assez de moyens pour le faire. Sinon la biodiversité, on l'a aussi regardé dans le programme de recherche, alors pas à Lyon, mais d'autres collègues sur Paris notamment, ont regardé les vers de terre. On prélevait des vers de terre, on les ont quantifiés et regarde aussi la pollution dans les vers de terre. Donc, mais c'est plus un objectif de recherche qui vise à se donner des valeurs de référence sur la qualité des sols de jardin en ville, parce qu'on pense qu'ils peuvent être plus pollués qu'ailleurs, mais en fait, c'est pas forcément évident.
Et alors, pour en revenir à ce soir, c'est important comme ça aussi d'échanger avec des gens autour de ces questions-là, de ces projets-là, du coup... dans un espace comme ça ouvert?
Ben oui, ça permet de voir... Certaines personnes sont étonnées de ma spécialité scientifique. Ils ne pensent pas qu'il puisse y avoir des scientifiques du sol. Ils se demandent, est-ce que tu es géologue au départ ou est-ce que tu es chimiste au départ ou biologiste? Et c'est vrai que c'est un objet qui leur est familier parce qu'ils savent ce que c'est que le sol, ils voient le jardin, mais ils ne pensaient pas qu'il pouvait y avoir des spécialistes de ça. Puis quand on commence à parler des légumes, ils disent « alors t'es plutôt dans l'agriculture », alors ils ne pensent pas que je peux travailler sur des sols.
Et alors justement toi, un petit peu pour finir l'interview là-dessus, qu'est-ce que tu fais concrètement? Tu es professeur aussi,
Alors j'ai été professeur, mais maintenant je suis au ministère de l'écologie, donc je suis chercheur au ministère de l'écologie, donc c'est au CEREMA en fait. CEREMA, c'est un établissement public sous tutelle du ministère de l'écologie et du développement durable.
D'accord, ok. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup.
Brume défriche pour vous l'actualité culturelle. Tout de suite, les magazines.
On est toujours à la Nuit des chercheurs au Planétarium de Vaux-en-Velin sur Brume et j'ai avec moi Laurie. Laurie, tu es chercheuse, mais dis-moi en quoi?
Alors moi, je cherche des sécheresses. Donc en fait, je ne suis pas vraiment chercheuse, je suis apprentie chercheuse, donc doctorante. Et je travaille à l'IRSTEA, donc c'est l'Institut pour l'environnement et l'agriculture. Et je travaille en hydrologie, donc tout ce qui est eau. Et plus particulièrement, ma thèse porte sur les sécheresses. Donc les sécheresses qui ont eu lieu durant ces 150 dernières années en France. Et bien pour le moment, on va dire que niveau pratique, j'ai appris un petit peu comment fonctionnait un travail de chercheur en fait. Parce que on voit, quand on arrive en fait dans le milieu, on ne s'imagine pas qu'il y a autant de projets, autant de choses compliquées. Il faut écrire des publications, il faut travailler avec d'autres organismes de recherche qui ne parlent pas français, donc vraiment apprendre l'anglais, ce genre de choses. Après, c'est vrai que la thèse, c'est un travail spécifique sur un domaine spécifique. Donc moi, je ne travaille pas seulement en hydrologie, mais aussi les sécheresses de manière générale. Donc c'est vrai que ça m'apprend aussi beaucoup sur le sujet. Ça fait un peu de moi, on va dire, au bout de 3 ans, un expert sur le sujet. Et j'espère que je pourrai le valoriser après dans d'autres domaines.
Et du coup, sur les sécheresses, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui dans l'ensemble quel est le résultat de ta recherche pour l'instant sur les sécheresses?
Bon, alors ma recherche pour l'instant, elle est à 1 an sur 3. Mais j'ai un petit peu regardé les sécheresses qui sont passées. Les sécheresses ne sont pas un phénomène beaucoup étudié, malheureusement, par rapport aux inondations. Mais elles ont des conséquences extrêmement graves. Lorsqu'il n'y a plus d'eau dans les cours d'eau, ça ne peut plus être utilisé pour les entreprises, on ne peut plus refroidir les centrales nucléaires, on ne peut plus alimenter les personnes en eau potable. Ça a des conséquences sur des années, ça couvre l'ensemble du territoire. Et c'est vrai que ce sont des événements qui sont un peu oubliés, on a l'impression, par les gens, parce qu'ils ont toujours de l'eau qui coule à leur robinet, ils peuvent toujours acheter leurs légumes qui sont importés d'Espagne. Mais après, malheureusement, ça a vraiment de très forts impacts sur l'économie, parce que ce sont des catastrophes naturelles qui coûtent extrêmement cher. Et après, on ne comprend pas forcément pourquoi nos impôts augmentent. Voilà, en gros, c'est vrai que c'est dommage que ce genre d'événement ne soit pas plus, on va dire, médiatisée que dans quelques articles de journaux par rapport aux inondations, en fait.
C'est vrai qu'on y fait souvent attention quand il s'agit de feux, par exemple les feux de forêt, etc. Mais on a rarement conscience des sécheresses qui peuvent durer très longtemps, en fait.
Oui, alors les feux, c'est pas forcément une conséquence directe des sécheresses parce qu'il faut quand même une flamme. Mais c'est vrai qu'avec un sol très sec, c'est un facteur aggravant, on va dire. Après, c'est vrai qu'on est en France, on n'en a pas conscience. Après, dans des régions comme la Californie, aux États-Unis, ils ont des sécheresses qui durent depuis 3-4 ans. Ils sont vraiment dans un état de catastrophe absolument gigantesque. On peut voir des séries de photos sur Internet avant-après qui sont très impressionnantes. Et de toute façon, l'eau, c'est la vie. Donc, si t'as plus d'eau, ça va être compliqué, même au niveau des écosystèmes. N'importe quoi, on va avoir des écosystèmes entiers qui vont être détruits, on va avoir de la pollution, puisqu'en fait, les entreprises qui vont essayer de rejeter de l'eau qu'ils utilisent dans un cours d'eau qui est quasiment sec, ça va rester de l'eau polluée globalement. Donc, après, ça pollue les sols, les nappes vont baisser. C'est vraiment un phénomène qu'il faut prendre en compte, surtout avec le changement climatique. On ne sait pas encore comment ça va évoluer, mais on a tendance à penser qu'avec l'augmentation des températures, un événement de sécheresse qui a eu lieu comme en 76 va éventuellement devenir une année plus ou moins normale dans 100 ans.
C'est pas très très rassurant, effectivement. Mais c'est vrai que sur le changement climatique, voilà, on entend souvent beaucoup parler des événements extrêmes comme les ouragans, etc. Et la sécheresse, mais plus en Afrique ou dans des pays qui sont déjà secs. Est-ce qu'en France, réellement, ça va avoir des conséquences importantes en termes de sécheresse ?
Alors, on ne sait pas. Parce qu'en fait, avec le changement climatique, le problème, c'est qu'il y a différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, selon comment on va émettre dans 10 ans, ça n'aura pas les mêmes conséquences que si on émet plus ou moins, en fait. Après, ce qu'on sait, c'est que globalement, on pense que les sécheresses vont soit augmenter en intensité, soit augmenter en fréquence en France. Donc, même si les gens ne le voient pas forcément il y a 2-3 ans, si on ne voit pas forcément l'impact des sécheresses sur nous, ce qui est quand même relatif, parce que par exemple dans des grandes villes qui ont vraiment des gros réservoirs en eau, ça se voit pas, mais dans les petites villes, quand ils ont plus d'électricité, plus d'eau pour irriguer, plus d'eau pour boire, ça se ressent bien. Et c'est vrai que ces événements vont être plus fréquents et ça va être difficilement limitable, même dans les grandes villes, d'ici quelques années, si vraiment on n'est pas bien préparé à la chose, d'où étudier le passé pour essayer de limiter les conséquences du futur, quoi.
Je te remercie beaucoup, Laurie, et je te souhaite de bonne continuation dans ta recherche.
Retrouvez Brume, la radio campus de Lyon, lors de la nuit des chercheurs ce vendredi 26 septembre. Au Planétarium de Vaux-en-Velin. Studio radio in situ pour couvrir la nuit des chercheurs, l'événement qui inaugure cette année l'édition 2014 de la Fête de la Science. Soirée spéciale à la rencontre des acteurs de la science, des chercheurs, votre radio campus s'offre un moment ludique de découverte parmi le public et plonge dans le monde passionnant de la recherche d'aujourd'hui.
Archimedeskracht.
Newton Asclepius.
We vliegen. We vliegen.
La nuit des chercheurs, c'est une autre expérience. Vivez-la le 26 septembre.